Alors, le patron m'a dit, vous n'avez pas une tête à vendre du jeu vidéo. Je lui ai dit, écoutez, je sors d'un stage chez Nestlé, je n'avais pas non plus une tête à vendre du Ricoré, ça s'est bien passé.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. C'est votre média Matrioshka, le média de la transmission. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver parce que je voudrais vous présenter une femme qui est pour le coup une vraie matrice qui participe à la création du monde au quotidien, à sa façon. Elle est mère de 6 enfants. Elle dirige, elle manage des équipes chez Ubisoft depuis 25 ans. Elle est engagée en tout point, que ce soit dans la vie sociale, mais elle est aussi active dans le monde culturel, aussi dans le monde virtuel, bien entendu, vu ses activités professionnelles. Et donc, elle pousse sans cesse les portes de nouveaux mondes afin de gagner des vies, dans le monde réel aussi, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien. Comment est-ce que vous avez élevé vos 6 enfants ? J'aimerais vous poser cette première question parce que je crois savoir que vous avez eu des enfants à chaque fois avec 2 ans d'écart et puis vous attendez quelques années, vous refaites 2 enfants, puis vous attendez quelques années, puis vous avez de nouveau 2 enfants. En gros, ce sont des enfants qui sont de générations différentes. Est-ce que vous avez eu affaire, selon ces générations d'enfants, aux mêmes enfants ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Je pense que oui, j'ai eu affaire aux mêmes enfants, mais moi, je n'ai pas été la même. Il y a 15 ans d'écart entre le premier et la dernière. Je pense qu'au départ, vous savez ce truc quand on dit au départ on a des principes, après on a des enfants, ben, c'est hyper vrai. Et finalement, les enfants, ben, ils se lèvent un peu tout seuls si on leur fait confiance. Et en fait, cette histoire de confiance, je pense que c'est une des choses qui guide ma vie. En fait, je pense que je suis une espèce d'éternel optimiste. Je me souviens d'avoir un bouclier autour de moi qui me protège. J'ai eu une chance incroyable de ne pas avoir d'accident de vie. Ce qui fait que finalement, la vie, elle roule un peu toute seule. Et je sais que c'est une chance incroyable et que ça me permet de faire avec le sourire un peu ce que je veux. Et finalement, mes enfants grandissent gentiment. Et voilà. Mais je sais que c'est de la chance.
Mais quand je vous écoute, on peut se poser cette question. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu besoin de les élever ? Ou alors, mine de rien, ça se fait tout seul ? C'est plus du tutorat ?
Alors, on tutore, on coach peut-être plus qu'on ne manage. Alors oui, avec des enfants petits, bien sûr, on les manage. Et quand j'en avais 4 de moins de 7 ans, ouais, il faut les manager, on n'a pas le choix. Mais petit à petit, finalement, ils savent qu'on est là. Mais on n'a pas besoin d'être au courant de tout, on n'a pas besoin de tout surveiller. C'est leur donner les clés pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre leurs décisions, voir un peu les copains et si ça roule, bah ça roule en fait. Donc cette confiance, mais c'est aussi la façon dont je gère finalement mon équipe au travail. C'est-à-dire que finalement, bah, une fois qu'on se connaît, les gens, ils sont bons, ils sont sympas, ils sont engagés. Et à ce moment-là, on peut leur faire confiance. Donc il n'y a pas besoin de micromanagement. C'est pareil en quelque sorte au travail ou à la maison. Je ne compare pas les deux. Je dis juste qu'en termes d'état d'esprit, finalement, on peut être là pour inspirer, donner des pistes, ouvrir des horizons. Et puis derrière, faire confiance aux gens pour qu'ils avancent, que ce soit les collaborateurs ou que ce soit les enfants ou bien même dans le milieu associatif.
Ok, donc ça, c'est la méthode. Mais finalement, pour vous, Déborah Papiernik, c'est quoi l'objectif ? Vous parlez de donner les clés à vos enfants, mais pour ouvrir quelle porte ?
Pour moi, c'est peut-être se sentir très ancré dans leurs racines, parce que pour moi, c'est ça qui solidifie en fait la construction individuelle. Être conscient de ses racines, après on peut s'en détacher si on le souhaite, mais les connaître. Connaître ses racines, parce que c'est une bonne base pour construire, et c'est souvent à l'aune de ses racines qu'on va regarder le monde, et qu'on va regarder le monde et qu'on va pouvoir s'ouvrir au monde et accueillir l'autre dans toute sa différence. Donc finalement, c'est pas juste être dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais je sais qui je suis et je peux accueillir l'autre, je peux me confronter à l'autre, qu'il soit d'une autre couleur, d'une autre religion, d'une autre orientation, on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est savoir qui on est et construire à partir de là. Et ça veut dire que finalement, on peut être curieux de tout aussi. On est curieux de tout, on s'intéresse à un peu n'importe quel sujet, on peut s'en inspirer, on est ouvert à l'autre dans sa différence, et on construit à partir de là, et on s'engage. Alors cette histoire d'engagement, je pense qu'elle est... Moi j'ai toujours vu ma famille, que ce soit mes parents, mes grands-parents, en plus du boulot, il y a toujours eu l'engagement. l'engagement qui soit associatif, qui soit religieux, qui soit un peu n'importe où, mais un engagement. Qui soit même dans la société. Mon grand-père était conseiller municipal, mon père était conseiller municipal aussi, mais aussi président de communauté, mais aussi impliqué dans telle ou telle association. Les scouts aussi, je le vois avec mes enfants, ils sont ultra impliqués dans les scouts. Et c'est pas juste j'y vais parce que les activités sont simples, c'est ensuite je prends des responsabilités et je vais transmettre, je vais engager. Mais ça peut être dans d'autres choses, ça peut être ok, moi j'ai appris le codage et hop, je vais créer un club de codage au collège et au lycée pour aller transmettre ce que moi j'ai commencé à découvrir. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose que je leur ai transmis sans leur dire faut s'engager, mais peut-être parce qu'ils m'ont vu m'engager et ils connaissent l'histoire de la famille avec cet engagement qui dépasse la maîtrise, je dirais, de son art, de son secteur. Ok, moi j'ai ma vie professionnelle, je développe des compétences et ces compétences, bah, elles peuvent sortir, elles m'appartiennent à moi en fait. Et à partir de là, je peux en faire ce que je veux.
En fait, j'aimerais vous poser une question, peut-être qu'elle ne se pose pas forcément en ces termes, mais pourquoi est-ce que vous avez eu 6 enfants ?
Alors, moi, je suis issue d'une famille de 4, donc 4, c'était plutôt sympa. Mon mari était une famille de 2, puis il m'a dit, ouais, 3, 4, ok. Et puis après, je dis, ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas plus que 4 ? Alors, il y a des gens autour de nous qui ont dit, ouais, mais vous devez avoir vachement confiance dans la vie pour faire ça. Je dis, non, je pense qu'on est inconscient, mais ce n'est pas grave. Je pense que si on réfléchit trop, on ne fait pas d'enfants, parce qu'en plus, on nous parle d'un monde aujourd'hui qui n'est quand même pas le plus rigolo. Que quand on regarde de l'histoire, on a l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on nous transmet aujourd'hui, que l'histoire a toujours progressé et que l'avenir de nos enfants était toujours meilleur que celui des parents. Mais là, on arrive à un moment où on est en train de nous dire, hey, l'avenir de vos enfants, il sera peut-être moins rose que le vôtre. Je dis, bah, dans ce cas-là, on fait des enfants ou on n'en fait pas. Donc peut-être qu'il ne faut pas trop... réfléchir à ce pessimisme en me disant, dire bah ok, je l'ai fait quand même. Et encore une fois, après, c'est de la chance. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir physiquement les avoir, de pouvoir financièrement les assumer aussi.
J'aimerais qu'on en vienne, Déborah Papiernik, aux jeux vidéo. On voit bien les profils des gamers aujourd'hui. A priori, ce n'est pas vraiment votre profil à vous. J'aimerais savoir, puisque c'est quand même votre milieu dans lequel vous évoluez et vous accompagnez aussi son mouvement, en quoi est-ce que le jeu vidéo a transformé votre vie ?
Alors, je suis rentrée dans le jeu vidéo un peu par hasard, hein, parce que quand j'étais jeune diplômée d'école de commerce, à un moment où l'emploi des cadres n'était pas au plus haut, donc j'ai pris un peu ce que j'ai trouvé. Alors, le patron m'a dit « Vous n'avez pas une tête à vendre du jeu vidéo ?» Je lui ai dit « Écoutez, je sors d'un stage chez Nestlé, je n'avais pas non plus une tête à vendre du Ricoré, ça s'est bien passé. » Il m'a dit « Bon, ok. » Le jeu vidéo, ce qui me plaît là-dedans, c'est pas jouer parce que je joue pas, je joue toujours pas, je sais pas où est le X et le A sur la manette, je sais pas me déplacer en 3D dans un environnement de jeu vidéo. C'est un vrai phénomène, en fait, qui grossit avec un intérêt qui touche de plus en plus de gens. Il y a ça d'une part. Il y a cette histoire de jeu et de progression à l'intérieur des jeux que je trouve intéressant parce qu'on apprend de plus en plus de choses et on développe des compétences à l'intérieur des jeux. Mais surtout, moi, c'est cette industrie que j'adore parce que mon quotidien, c'est de parler à des artistes qui sont géniaux et à des ingénieurs qui sont géniaux et à des scénaristes. En fait, j'ai une richesse de métiers, de gens à qui je m'adresse qui est formidable. C'est aussi une industrie qui est très, très internationale. C'est une industrie qui fait partie de la culture. Notre ministre de tutelle, c'est la culture. Alors, ça peut en surprendre certains, mais c'est le cas. Et aujourd'hui, c'est l'industrie culturelle qui est la plus importante. C'est plus gros que cinéma, musique, vidéo on demand ou théâtre combiné. C'est la plus grosse. Donc, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Et ça mobilise des compétences énormes. En termes de technologie, c'est vraiment à la pointe. Et il y a d'autres secteurs qui s'inspirent du jeu vidéo pour avancer en termes de technologie, en termes d'artistes et en termes de collaboration. C'est aussi un univers où chacun vient avec ce qu'il est. Et puis, parce qu'on va avoir des artistes, parce qu'on va avoir des gens qui s'intéressent à des sujets différents, on a un gars qui a un kilt, un autre qui a les cheveux roses. Et en fait, on a aussi des gens qui sont en costume et tout propre sur eux. Et on a les gens qui viennent d'école de commerce et puis des gens qui n'ont pas le bac. On a un peu de tout. Et c'est ce mélange, en fait, qui permet cette créativité renouvelée du jeu vidéo. Et ça me plaît.
Et de votre regard, de votre analyse, de votre point de vue, parce que j'imagine qu'il y a le quotidien, ce qu'on fait, et puis il y a aussi le regard qu'on porte hein, sur les actions qu'on mène. Quelle place, quelle responsabilité a le jeu vidéo dans la société d'aujourd'hui, de votre point de vue ?
Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le jeu vidéo, c'est un des rares endroits où on peut échouer face à ses copains, et c'est OK. En fait, je fais une partie, je perds, je recommence et à chaque fois, je m'améliore. Donc, rien qu'en termes de gain de confiance en soi, c'est pas mal. En termes de relations sociales, c'est pas mal aussi. C'est un vrai espace d'échange, de discussion et de travail de groupe, de travail collaboratif aussi. Donc, ça, c'est ce qui est intrinsèque au jeu. Maintenant, il y a un autre point qui est que le jeu vidéo est aujourd'hui finalement le média le plus gros et le plus international. Donc, à l'intérieur du jeu vidéo, on peut faire passer des choses. Par exemple, avec des jeux comme Assassin's Creed, on travaille tellement en amont avec les historiens pour recréer des périodes historiques, de la Grèce antique au monde des Vikings, en passant par l'âge de la piraterie ou la Révolution américaine, etc. Donc en fait, on transmet des notions historiques. Donc des jeunes qui auraient peut-être pas envie de regarder un documentaire ou d'ouvrir un livre d'histoire, finalement, ils vont tout apprendre sur la Venise de la Renaissance à l'intérieur du jeu. Et puis il y a une autre chose, c'est que c'est vrai que les gens y passent pas mal de temps et que au lieu de passer du temps devant la télé, devant une série, devant un film ou devant même le journal télévisé, à l'intérieur du jeu, on peut faire passer d'autres messages. Par exemple, on a organisé une marche pour le climat à l'intérieur d'un jeu de sport extrême qui se passe en montagne. On peut faire passer des messages en utilisant le jeu comme un média. On a en plus des populations qui sont extrêmement engagées. Enfin, c'est leur passion souvent de jouer. On critique suffisamment le jeu vidéo pour le nombre d'heures que les gens y passent. Mais en fait, ils y passent du temps parce qu'ils s'y retrouvent aussi, parce qu'ils y trouvent un intérêt et on peut en profiter pour faire passer des messages.
Et est-ce que tous les jeux vidéo sont éthiques? Est-ce qu'il existe, par exemple, des instances qui permettent d'encadrer l'information qui est transmise au travers du jeu vidéo? Parce qu'il y a quand même ce sujet toujours de la qualité, de la véracité de l'information, et le jeu vidéo en est, quand même un vecteur.
Alors, plusieurs choses. Tout à l'heure, je disais qu'on travaille avec l'histoire. Donc, en fait, on s'imprègne de l'histoire, on travaille avec les experts, les universitaires, etc. Et après, nous, on se donne l'autorisation de modifier un peu l'histoire parce qu'il faut toujours conserver l'intérêt du joueur. Donc, c'est la licence poétique qui est exactement la même chose dans un roman historique ou dans un film qui va raconter un morceau de l'histoire. On a ces licences poétique qu'on peut prendre. Ça, c'est une chose. En termes d'éthique, si vous voulez parler de la violence, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont violents, qui sont des jeux de guerre, des jeux de combat. Alors là, nous, on va faire attention aussi aux histoires qu'on raconte. En fait, on peut avoir un méchant, on peut même incarner un méchant, mais il faut qu'on donne suffisamment d'éléments aux joueurs pour qu'ils puissent apporter un regard critique quand ils incarnent un méchant. Ben, il sait qu'il est méchant. Mais quand vous voyez un film, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez voir Hannibal Lecter, il est horrible. Ben, vous regardez quand même ce film. Mais vous savez qu'il est horrible. Donc en fait, il y a une distance de toute façon qui se crée entre qui je suis moi et quel est le personnage que je peux piloter quand je suis aux manettes du jeu vidéo. Et puis le méchant peut être aussi l'adversaire. Donc, je pense ça fonctionne un peu comme dans n'importe quel autre média, je dirais comme dans le cinéma, etc., où les gens n'essayent pas de faire le mal, en fait. D'ailleurs, la mission d'Ubisoft, c'est enrichir la vie des joueurs. Alors, franchement, quand la communication nous a inventé la mission d'Ubisoft, on l'a écrite, on s'est un peu dit, ouais, enfin, nous, on fait des jeux, quoi. Est-ce que vraiment on enrichit la vie des joueurs? Et en fait, en y repensant, par ces aspects de confiance en soi, de relations sociales, déjà de façon intrinsèque, oui, on enrichit la vie des joueurs, et parce qu'on peut transmettre des choses à l'intérieur du jeu aussi, on peut enrichir la vie des joueurs. Il y a un truc qui est assez amusant, il y a quelques années, l'OMS a classé le jeu vidéo dans les maladies, les addictions. En fait, voilà, il y a plein de gens qui sont addicts aux jeux vidéo, et donc ça fait partie des maladies mentales. C'est de leur expliquer que bah, finalement, oui, bien sûr, il y a des gens qui passent trop de temps dans les jeux vidéo et surtout qui utilisent les jeux vidéo comme échappatoire par rapport à leur vie. Et ça, on est d'accord que c'est un problème. Mais souvent, ces gens-là sont des gens qui auraient eu peut-être une autre addiction. Parce qu'en fait, le problème ne vient pas du jeu vidéo, vient d'eux. Parce que en fait, chacun est comme il est et qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une vie heureuse, etc. Pendant le confinement, la même OMS a contacté toutes les sociétés de jeux vidéo en disant « Est-ce que vous voulez bien mettre des jeux gratuitement à disposition des gens ?» On va faire une campagne « Play Alone Together » parce qu'on s'est rendu compte que le jeu vidéo était un moyen de connecter les gens. Donc connecter au sein d'un foyer parce que les parents vont jouer avec les enfants, par exemple à Just Dance ou au jeu de Nintendo. Et puis connecter à distance pour tous ces gens qui étaient seuls chez eux et qui vont « Play Alone », jouer seuls « Together » avec d'autres gens en ligne. Et ils se sont rendus compte d'un seul coup de la puissance du jeu vidéo en termes de création de liens sociaux qui est la base de notre existence.
Oui, on entend bien hein, au travers de ce que vous racontez qu'il y a cette interaction entre le jeu vidéo d'un côté et puis nos jeunes en général de l'autre. Mais ça m'intéresserait qu'on aille un petit peu plus loin dans cette réflexion et que vous me disiez en quoi, selon vous, le jeu vidéo a même transformé les individus et finalement ce qui constitue notre société aujourd'hui.
Cette ouverture vers des sujets qu'on ne connaît pas, la possibilité d'essayer. En fait, c'est pour moi, c'est extrêmement important. En fait, c'est une simulation à un jeu vidéo. Et donc, je peux faire à l'intérieur d'un jeu vidéo des choses que je ne peux pas faire dans la vraie vie. D'abord, je peux prendre des risques. Alors oui, je peux me battre, mais je peux aussi conduire une moto et faire des loopings. Je peux faire du ski, je peux aller dans des labyrinthes, je peux aller dans les profondeurs de la mer ou de la terre ou dans l'espace. Donc en fait, c'est un accès finalement au monde au sens très très large. C'est aussi d'ailleurs cette notion d'évasion qui avait été soulignée par l'OMS quand on était chacun chez soi, confiné dans nos appartements. C'était dire « Ok, on ne peut plus voyager, mais... par le jeu vidéo, on peut voyager. Et on peut le faire un petit peu plus que par le film, parce qu'on est acteur de ce qu'on fait. On décide où on va, alors que le film est linéaire. Donc le film a ses qualités. Je ne critique pas du tout le film, je dis juste que le jeu vidéo est différent. Et parce qu'on est acteur, et qu'on est souvent dans des mondes qui sont ouverts en plus, c'est-à-dire qu'on peut aller un peu où on veut, et puis finalement faire les rencontres qu'on veut, ou sur son chemin. D'ailleurs, avant, le jeu vidéo était très très linéaire. Donc finalement, il racontait une histoire, on faisait ses quêtes, on avançait, on voyait des cinématiques, et puis le lendemain matin dans la cour de récré, on disait « T'en es où du jeu ?» Et puis « Ah ben j'ai vu la cinématique, ah ben attends, me raconte pas, moi je vais la voir ce soir. » C'est plus du tout ça. Maintenant c'est « Qu'est-ce que t'as vécu toi ?»« Ah ben moi j'ai parlé à telle personne dans le jeu, et puis ça a déclenché telle chose. »« Ah mais t'as pas fait la quête machin, mais enfin regarde, parce que si tu vas à droite à tel endroit, tu vas découvrir un autre truc et puis un autre mode de jeu. » Et en fait chacun a une expérience différente aujourd'hui dans le jeu vidéo, donc c'est d'une puissance qui est infinie. Quand on dit il y a 100 heures de jeu dans un jeu, c'est pas que nous on a raconté de façon linéaire comme dans un film 100 heures ou dans une série, où on a des séries qui font 100 heures. Mais là c'est pas la même chose, chacun vit une expérience différente et finalement qui ressemble plus au monde. C'est-à-dire, quand je vais sortir d'ici, je vais croiser des gens. Et puis, il y aura peut-être une crotte de chien par terre et je vais faire un pas de côté. Et bien, dans le jeu vidéo, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas toujours scénarisées et où on peut vivre des choses un petit peu différentes.
Et vous, si vous portez un regard aussi de votre responsabilité, de ce que vous faites au quotidien, Déborah, comment est-ce que vous menez cette mission de transformer la société en utilisant cet outil qu'est le jeu vidéo ?
Alors, depuis le départ chez Ubisoft, moi j'ai toujours créé des ponts vers l'extérieur. Alors au début parce que j'avais des contraintes, quand j'étais au marketing, j'avais pas de budget et donc j'avais pas d'autre solution que de faire des partenariats. Mais mes partenariats, ils ont été avec Peugeot sur un jeu de course, ça vous dit bon, c'est assez simple, mais avec une simulation économique, j'ai fait un partenariat avec Le Point, et puis avec des jeux d'avion, j'ai fait un partenariat avec l'Aéroclub de France. Donc en fait, je suis tout de suite allée vers l'extérieur. Donc en fait, déjà j'avais cette dynamique. Et finalement, j'ai continué tout au long de ma carrière. Moi, c'était le partenariat avec des gens qui n'avaient juste rien à voir avec le jeu vidéo. Et depuis 6 ans, je développe des activités où je prends les marques ou les expertises du jeu et je fais d'autres choses avec. Je développe des attractions dans lesquelles on joue, mais pas chez soi justement, comme des bornes d'arcade par exemple. Je développe des concerts. Donc là, on a fait un concert symphonique avec 100 musiciens et 20 choristes au Grand Rex. On avait plus de 2000 personnes au Grand Rex avec les musiques d'Assassin's Creed et du concert symphonique avec des projections. Donc là, on va toucher la vraie musique. On compose des musiques pour le jeu et puis on la restitue au public avec un orchestre symphonique. Mais je prends aussi, par exemple, au moment de l'incendie de Notre-Dame, j'ai demandé à mon équipe de reprendre le modèle de Notre-Dame qui avait été fait pour Assassin's Creed Unity sur la Révolution française, extraire le modèle 3D pour en faire une visite en réalité virtuelle de la cathédrale Notre-Dame. On ne pouvait pas la visiter, on ne pourra pas la visiter encore avant quelques années. Et là, grâce à un casque de réalité virtuelle, pendant 5 minutes, je visite l'intérieur, l'extérieur de Notre-Dame. Et ça, c'est extrêmement émouvant parce qu'on a l'impression d'y être. Donc j'utilise un outil technologique qui est la réalité virtuelle, que le jeu vidéo maîtrise parce qu'il est souvent en avance sur l'adoption des nouvelles technologies. J'utilise la capacité d'engagement du jeu vidéo parce qu'on sait à l'intérieur du jeu vidéo raconter des histoires, même souvent sans mots. D'ailleurs, dans mon expérience Notre-Dame, il n'y a même pas de commentaires, il n'y a rien, il y a juste une ambiance qui vous fait vous sentir là. Donc en fait, le jeu vidéo, il sait créer des mondes virtuels vivants et engageants. Et à partir de là, je peux proposer ça au grand public. D'ailleurs, mon expérience est dans la crypte archéologique de Notre-Dame, où elle est dans les microfolies, qui sont ces musées digitaux, enfin avec du contenu digital, qui sont développés gratuitement partout en France et à l'étranger. Mais je travaille aussi avec la santé, c'est-à-dire qu'on utilise la capacité d'engagement du jeu vidéo, les technologies du jeu vidéo, pour par exemple aller guérir l'amblyopie chez les enfants. Donc ces enfants qui ont un cache sur l'œil quand ils sont en maternelle, parce qu'ils ont un œil dont la connexion ne se fait pas bien avec, au niveau du nerf optique. Et là, basé sur un brevet développé par un prof de McGill au Canada, Ubisoft a développé un jeu vidéo où les enfants, sans s'en rendre compte, vont mobiliser la vision binoculaire pour pouvoir réussir à faire le jeu. Et les études cliniques qu'on a faites jusqu'à présent prouvent qu'en 5 à 6 semaines, les enfants sont guéris et qu'on peut même rééduquer des adultes qui auraient eu une rechute. La start-up avec laquelle on travaillait était rachetée par Novartis, donc maintenant on est en deal direct avec Novartis. On espère que ça ira jusqu'au bout, parce que dans le médical, c'est toujours difficile de savoir ce qui aboutira ou pas. Mais là, on peut dire qu'on enrichit la vie des gens. Et on va au-delà des joueurs. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'aller au-delà des joueurs. Il y a quelque chose de formidable qui se passe dans les jeux vidéo. On a aujourd'hui quasiment la moitié de la population qui joue aux jeux vidéo. Quand je suis rentrée dans le jeu vidéo, on n'avait qu'une femme sur cinq, qu'on avait 10% de joueuses, 90% de joueurs. Aujourd'hui, c'est à peu près 50-50. Donc en fait, déjà, on a fait ce progrès-là où on arrive à parler à des populations beaucoup plus variées. Et on peut prendre ce qu'il y a dans le jeu vidéo, ce pourquoi d'ailleurs le jeu vidéo est parfois critiqué, le fait qu'il soit trop engageant et qu'on y passe trop de temps, mais ces mécaniques d'engagement, elles peuvent servir à autre chose. Par exemple, quand on fait un escape game en utilisant la réalité augmentée et nos technologies du jeu vidéo et même nos marques du jeu vidéo comme Assassin's Creed pour aller visiter les Invalides. Moi, quand j'ai visité les Invalides, j'avais 12 ans, j'étais avec mes grands-parents, j'en garde pas un souvenir incroyable, je me rappelle juste que j'étais avec mes grands-parents et qu'il y avait vaguement le tombeau de Napoléon. Bon, ok, mais c'est une visite qui est en général assez rapide, qui est pas très très marquante. Là, quand je l'ai refait avec mes enfants il y a quelques années, c'était avec un escape game Assassin's Creed à travers un téléphone mobile. En réalité augmentée, on a interagi avec les tableaux, avec les sculptures. Il y avait même des acteurs qui nous ouvraient des salles qui étaient d'habitude fermées au public. Et c'est devenu un vrai moment de partage où on était engagé, on est devenu acteur de notre visite. Et grâce à ça, le souvenir qui va en rester va être beaucoup plus fort. À la fois sur le moment, qui était un vrai moment agréable et de partage en famille, et puis sur le contenu, parce qu'il a fallu résoudre des énigmes tout en regardant l'architecture et les contenus qu'il y avait aux Invalides.
On dit toujours chacun fait sa part dans la vie. Vous, c'est quoi votre part dans la vie? C'est quoi votre mission, Déborah?
J'ai eu la chance d'évoluer. Ça fait 25 ans que je suis chez Ubisoft. Quand je suis rentrée dans le jeu vidéo, je ne jouais pas. C'était une industrie quand même super moderne. Je ne suis pas la personne la plus moderne du monde. Je ne suis pas à la mode. Je ne connais pas la musique. Je ne connais pas les films. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis qui je suis. Et d'ailleurs, en tant qu'ado, ce n'était pas facile parce que j'étais pas le vilain petit canard. J'étais un peu l'intello, etc. Moi, j'ai l'impression d'être rigolote, mais je ne suis pas sûre que les gens autour aient pensé que j'étais rigolote. Voilà. Et finalement, petit à petit, d'abord j'ai été animatrice de colo et puis je me suis rendu compte qu'on peut ne pas être fun selon les standards des ados et finalement être très fun dans une construction collective avec un autre groupe d'animateurs et faire que les enfants ils s'éclatent en colo. Et ça a été pour moi le déclencheur de « en fait je peux être qui je suis, il suffit que je tombe sur les bonnes personnes qui ont envie de créer avec moi et on peut créer ensemble ». Et chacun avec sa différence, il y en avait qui étaient hyper modernes, beaucoup plus que moi, et chacun en se mettant ensemble on peut créer. Et finalement, je pense que c'est avec le même état d'esprit que j'ai rejoint le jeu vidéo en disant ben, « c'est un peu comme chez McDo, en fait, je suis venue comme j'étais ». Et ils m'ont pris comme j'étais, même si je n'avais pas une tête à vendre du jeu vidéo. Ils m'ont pris comme j'étais et j'ai pu grandir et m'épanouir. Alors oui, je ne suis pas la même qu'il y a 25 ans. Je suis certainement un petit peu plus ouverte sur le monde, mais parce qu'aussi j'ai eu mes réalisations et du coup j'ai gagné de la confiance en moi. Mais par contre, je suis la même, je suis pas mieux habillée, je ne suis pas plus à la mode, je ne connais pas mieux les acteurs ou les chanteurs, mais je les regarde avec plus de curiosité et d'intérêt que je ne pouvais le faire il y a quelques années. Et finalement, je pense que ce qui est important, c'est d'accepter d'être soi-même et apporter qui on est. Et finalement, je trouve beaucoup plus intéressant de se renforcer dans ce qu'on sait déjà bien faire plutôt que d'essayer de tout faire. Et en capitalisant sur ses forces, on gagne de la confiance en soi, on rayonne, on donne plus au monde puisqu'on va donner des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus fouillées. Et ça n'empêche qu'on peut, par ricochet, progresser sur des aspects qu'on ne maîtrisait pas au départ. Donc, et c'est la même chose, en fait. C'est vrai que l'école en France, par exemple, n'est peut-être pas toujours dans cet état d'esprit. L'école veut qu'on soit dans un moule et qu'on soit bon dans toutes les matières. Il y a d'autres systèmes dans d'autres pays où quand ils repèrent qu'un enfant est très très bon en maths, c'est pas très grave s'il n'est pas très bon en langue ou en histoire. Alors on va le pousser sur les maths, on va lui donner confiance en lui et on va lui dire « là t'es hyper bon, là t'es un génie ». Et puis la suite, elle suivra. Et j'ai l'impression que ça permet d'avancer plus parce que chacun va comprendre qu'il a un rôle à jouer dans la société et pas juste qu'il est moyen, il est à peu près au niveau dans tout. Il brille dans quelque chose et il l'emporte.
Alors vous savez, Déborah Papiernik, on est dans cette collection portée par Matrioshka qui est les Matrices, où j'ai vraiment voulu que ce soit toutes ces femmes qui font le monde qui soient référencées dans une collection. Les matrices, vous diriez que vous êtes matrice de quoi? Vous êtes créatrice de quoi?
En fait, en challengeant ce que la personne en face me dit, en m'intéressant vraiment à elle, si je demande à quelqu'un, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que la personne me répond, je suis avocate, je ne m'arrête pas là. Mais oui, mais t'es avocate, t'es en indépendante ou t'es dans un cabinet? Ah, je suis dans un grand cabinet. Mais c'est quoi ta spécialité? Et c'est quoi tes challenges? Et c'est quoi? Ça ne veut pas dire que moi je vais résoudre ces challenges, mais je veux dire, c'est quoi son quotidien? En fait, il s'intéresse à quoi pour de vrai? C'est quoi sa compétence? C'est quoi ses centres d'intérêt? C'est quoi les difficultés? Et en fait, parfois, en faisant ça, ben, on fait réfléchir les gens différemment. On les fait aussi s'ouvrir à des sujets qu'ils ne connaissaient pas. Et au lieu d'être chacun dans des cases, bah on crée le pont en fait, entre tout ça. Et puis on prend ses compétences et on les amène ailleurs. Je suis aussi présidente de l'association des parents d'élèves dans le collège et le lycée où je suis. Et finalement, j'amène là-bas ce que je peux avoir. Alors, inspirant, ce serait prétentieux de le dire, mais cette capacité peut-être à embarquer avec moi aussi bien mon équipe au travail que les gens qui travaillent avec moi dans l'associatif. Parce que finalement, ben, on regarde le monde positivement, on se dit ben, on peut apporter quelque chose à notre mesure, il faut qu'on trouve notre place. Mais là, en trouvant notre place, eh ben, on organise par exemple un gros forum métier avec 1000 élèves, 50 internes, et on le fait. Et en fait, on a l'impression que c'est utile. C'est pas ça qui va changer le monde. Mais chacun, à sa mesure, on peut apporter quelque chose qui est utile en apportant nos compétences personnelles, professionnelles. Et en fait, ma compétence professionnelle n'appartient pas à Ubisoft. Ma compétence personnelle n'appartient pas qu'à moi. Et en fait, en mettant tout ça ensemble, bon, pour moi, on contribue au monde, quoi, et à faire qu'il y a du soleil.
Si vous regardez là, cette poupée russe, cette Matrioshka, hein, puisque c'est ça le symbole de notre chaîne Matrioshka, c'est la poupée russe, cette idée qu'on a tous quelque chose à transmettre. Mais surtout, quand vous l'ouvrez là, cette poupée russe, que vous regardez dedans, ça vous permet de voir un petit peu la descendance, ce qui arrive après. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur, vous? Qu'est-ce que vous projetez?
Cette Matrioshka, elle a une histoire. Elle s'inscrit dans la lignée. Les Matrioshka, il y en a depuis longtemps. Elles existent dans certaines cultures. Là, tu en as des représentations ici qui sont différentes. La Matrioshka, c'est le truc où on ouvre, on a l'impression que c'est infini. On aurait envie, quand on arrive à la plus petite Matrioshka, qu'il y en ait encore une à l'intérieur. Et moi, je vais chercher peut-être ce qu'il y a à l'intérieur de la plus petite Matrioshka, parce qu'elle aussi, peut-être qu'on peut l'ouvrir et puis qu'elle apporte quelque chose et qu'elle nous fasse aller encore plus loin.
Merci beaucoup, Déborah Papiernik, pour cet entretien. J'espère que vous avez pu prendre du plaisir aussi à partager ce que vous portez au quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Les Matrices, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez passé un agréable moment, vous aussi qui nous écoutez, avec Matrioshka dans vos deux oreilles. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, à regarder la version plus courte de cet entretien en vidéo sur la chaîne YouTube Matrioshka ou évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, à interagir avec nous. C'est avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine Matrice. Salut, salut.